France Inter.
Franchement, les gens se rendent pas compte de ce qu'ils vous donnent quand vous êtes sur scène, mais ils vous sauvent, quoi.
D'un coup, on est ensemble, donc en fait, il y a quelque chose qui se crée de la communauté. C'est-à-dire que je suis toute seule, mais d'un coup, ils sont avec moi, et en fait, ça marche pas sans eux, et moi, je marche pas sans... Enfin, et l'inverse, c'est vrai, quoi. Je suis là pour eux, ils sont là pour moi, et ils se réparent un petit truc.
Pour moi, la science est vraiment une science d'émerveillement, et je voulais, avec ce livre, montrer et faire une sorte d'appel, une sorte de réémerveillement, et un appel de venez, il y a encore des tonnes de choses à découvrir, on se comprend pas si bien, et c'est dommage d'accepter ces récits simplistes qu'on nous sert à cette sauce de Normania.
Elle est Annick, sarouel et cheveux sales dans Le Flambeau. Elle est Billy, la colocataire de Kian Kojandi dans Bref 2. Dans Banger, elle est un membre de la DGSI, le service de renseignement intérieur français, et une étudiante en psycho qui trouble le comique Hakim Djemili dans L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. Bonjour Laura Felpin.
Bonjour.
En ce moment, le cinéma, c'est vous.
Il paraît, ouais.
Vous dites oui à tout.
Non, je dis pas oui à tout. J'ai beaucoup travaillé en peu de temps, c'est vrai.
Vous aimez bien comme ça être désiré par les cinéastes ?
Waouh, ça commence fort votre émission.
Ah, oui. On parle de désir dès le début.
Je sais pas si c'est tant le désir que je ressens, mais en tout cas, je suis ravie de recevoir les scénarios que je. Enfin, quand je. Oui, bon, je suis contente d'être désirée, c'est vrai.
Bien sûr.
allons au bout.
Vous avez désiré Albert Moukébert, qui est psychologue clinicien, qui est docteur en neurosciences. Vous vouliez qu'il soit dans votre grand atelier, Laura Felpin. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Le cerveau est l'objet principal de votre recherche. Il nourrit vos livres, comme Votre cerveau vous joue des tours, et plus récemment, Neuromania. On vient vous consulter pour quel genre de douleur ?
Des douleurs de l'esprit et des douleurs du corps aussi, parce qu'ils ne sont pas séparés.
Mais hâte de vous entendre parler tous les deux dans le grand atelier. On va faire aussi un tour dans l'émission au Musée Mayol à Paris. Il propose actuellement des photos de Robert Doisneau, dont beaucoup d'images méconnues. L'expo s'intitule « Instant donné ». 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Laura Felpin.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va, super. Et vous, comment ça va ?
Ben, moi, je suis pas malade, mais vous nous l'avez dit que vous aviez un petit souci.
Oui, ça va. Ça s'imbrique dans la vie, finalement, ces petits trucs-là. On croit toujours que ça arrive à un autre moment et que la vie, et ça arrive pendant. Mmh. Et ça se gère plutôt pas mal. J'ai quand même un cancer de la thyroïde qui a un très bon pronostic, qui est assez commun, assez courant. Voilà, c'est quand même une petite chose de vivre sans cet organe.
Oui, on vous a retiré la thyroïde.
On m'a retiré toute la thyroïde et maintenant je fonctionne grâce à une molécule qui remplace du coup ma thyroïde et qui, comme est elle une molécule de synthèse, trouve son petit rythme dans mon corps. Donc en ce moment, je traverse des moments de questionnement physique, mais ça va.
Ça joue sur votre morale ?
Oui, ça joue sur tout. En fait, on ne se rend pas compte. Je crois que ça aurait été plus simple qu'on m'enlève un bout d'intestin parce que j'aurais su exactement à quoi ça servait la thyroïde. Ça propage tellement de choses partout que, voilà, il y a la température du corps, le rythme cardiaque, là, j'ai des crampes, par exemple. Enfin, c'est très étrange. Il y a plein de trucs que ça gère. Donc, j'apprends, je découvre.
Mais vous arrivez à travailler, Laura Felpin ?
Oui, alors là, je suis présentement en train de faire la promo de tout ce que j'ai travaillé l'année dernière. Donc, c'est aussi du travail. Et j'ai hâte de ne rien faire.
Pourquoi vous l'avez dit ?
Bah parce qu'on me l'a demandé. Enfin, on m'a demandé comment j'allais. Et c'est alors bon, j'ai le pauvre journaliste que j'embrasse très fort. Franchement, je sortais je devais avoir eu le pronostic 24 heures avant de faire cette interview pour GQ. Et j'avais quelques mois auparavant subi une première intervention pour m'enlever la moitié du lobe de la thyroïde. J'avais fait une photo sur les réseaux sociaux, mais ça m'a vraiment échappé. C'est-à-dire, j'avais pas du tout pensé qu'on ferait des articles là-dessus. Et tout de suite, voici attitré ou je sais plus qui, Laura Felpin atteinte d'un mal mystérieux. On ne sait pas. Je me suis dit, oula. oula. Moi, j'avais même pas encore le pronostic. Je me disais, je suis en train de me porter la checoune en plus. Donc, j'ai tout de suite enlevé ma story. Ça a duré 10 secondes. Hein. Ça, c'est parti. Et cette personne en interview m'a demandé très vite, à la fin de l'interview, m'a demandé, pardon, et comment va ta thyroïde ? Et j'étais très surprise par cette question, parce que c'était vraiment resté 10 secondes sur les réseaux. Et ça m'a échappé, et je souhaite pas spécialement être le porte-parole du cancer en France, mais ce que ça a ouvert depuis, à part tous les titres putaclic et les gens qui ont eu besoin de parler de ça comme avec une sémantique toute particulière, frappé par la maladie, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie avec qui je discute, et on discute de dosage, par exemple, de lévothyrox. Oui. Et ça, c'est quand même c'est une autre balade et c'est sympa.
J'aime vous bien. Avez eu aussi beaucoup de messages sympathiques,
ouais.
Vous disant bon courage, des choses délicates. Oui. Ça fait énormément de bien.
Ça fait énormément de bien. Et après, moi, je suis un peu superstitieuse, donc j'avais un peu l'impression que ça m'enterrait aussi. Quoi. Je me disais, oulala, j'ai l'impression que je suis en train de crever.
Biopic.
Mais
qui jouera Laura Felpin ?
Oui, qui jouera Laura Felpin ? J'espère moi-même encore, là, pendant quelques temps. Non, mais oui, il y a un rapport. En fait, le dire, c'est aussi accepter, je pense... C'est pas comme si j'étais pas quelqu'un qui vivait avec cette notion de la mortalité à peu près à chaque seconde de ma vie, mais ça l'a quand même bien concrétisé publiquement, et ça, c'est une autre aventure encore, quoi. Mais bon, je digère, hein, donc je...
Non, mais vous avez l'air d'aller très bien, et de digérer l'information, effectivement, aussi, hein, en plus de chercher le dosage avec vos médecins. Albert Moukébert, c'est intéressant, vous, si vous regardiez là, le cerveau de Laura en ce moment,
oh, wow.
Il y a plein de bonnes ondes, je le disais à l'instant, donc ça doit lui faire du bien à ce petit cerveau de Laura. Et puis il y a aussi un traitement qui marche puisqu'on retire la thyroïde et qu'ensuite on essaie de trouver le bon dosage.
C'est sûr que quand on a une annonce comme ça, avec un bon pronostic, c'est mieux qu'avec un mauvais pronostic.
C'est mieux.
Après, j'imagine que Laura aurait préféré ne pas avoir le pronostic
tout court,
du tout.
Ouais.
Mais une fois qu'il est là, c'est vrai qu'on va avoir pas le choix en général de devoir l'intégrer. Mmh. Et il faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux. Du coup, avoir un soutien de gens autour de nous, même s'il y a des choses qui nous échappent aussi, des gens qui vont profiter de ça pour parler de ci, etc. Mmh. Je pense que ça fait toujours du bien. On n'est pas, fait pour être isolé, ni dans des nouvelles pas sympas, ni dans le bonheur d'ailleurs. C'est le partage. C'est quelque chose d'assez central dans notre fonctionnement.
Laura Felpin, c'est quelqu'un d'angoissé. Vous l'avez dit, je l'ai lu. Ça n'ajoute pas à votre angoisse d'avoir eu cet accident.
Oh bah quand même. Alors c'est-à-dire que c'est très marrant.
Non, parce que vous n'en parlez pas comme une angoissée.
J'embrasse ma psychologue que je vois depuis des années. Aye. Et à un moment donné, elle me dit, bon écoutez Laura, maintenant franchement, vous savez, je pense qu'on peut faire le grand travail d'à chaque fois que vous dites au revoir à quelqu'un, c'est pas la fin quoi. Et en ce moment, j'étais sur un truc de si je meurs, qui va me maquiller ? Et je me disais, bon écoute, faut que je me calme avec ça. Il est vrai que, parce que je traîne beaucoup avec des vieux, mais des vrais vieux, quoi. J'ai un moment, je me voyais avec mes grands-parents et je me disais, bon, alors, il faut quand même que tu ailles un peu dans la vie, puisque là, franchement, c'est vraiment pas tout à fait le moment. Puis, en fait, tu vas y arriver à un moment, donc sois pas trop pressé, quoi. Et j'apprends une semaine après que j'ai un cancer. Donc, elle me dit, pas de bol. Je fais genre, yes. Mais franchement, je sais pas, en même temps, j'ai l'impression que... Je dis, c'est la grande aventure, parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc... Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de dire tu vas transcender, tu vas trouver une force incroyable et tout. Moi, je trouve juste ça fait chier d'abord, quoi. Là, je commence à comprendre un peu les mots de Bobin qui disait il se peut que lorsqu'on traverse une épreuve, elle finisse par nous servir. Il se peut, mais j'y suis pas encore.
Vous êtes
c'est juste chiant, quoi.
Vous êtes une grande lectrice, hein, Laura Felpin. Est-ce que Bobin figure sur vos étagères ?
Ah ben non, mais moi je suis une folle de Bobin. Il me manque et je l'ai pas connu. C'est fou quand même. J'adore ce mec. Il dit ce qui est pas disciple, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Il est comme connecté au divin, comme ça. Il a compris que le bonheur, c'était pas cette espèce d'énorme félicité qu'on imagine et c'est un moment absolu qu'on vivrait pour toujours. Il comprend que c'est parfois dans le reflet de la lumière sur une écorce de bouleau et tout. Et moi, ça me touche infiniment.
Vous êtes un certain nombre à aimer beaucoup
crois,
Bobin.
C'est une secte.
Chez les comédien,
ouais.
Quelqu'un comme Arthur Teboul qui lui-même est poète, en plus d'être l'auteur des textes de Feu Chatterton.
Ouais.
Il connaît son Bobin sur le bout des doigts.
Ah, ouais.
Et Bobin était sensible aussi aux comédiens.
Ah, bah écoutez, vous voyez, comme quand on s'est raté, moi et Bobin.
Oui, c'est vrai, mais il a ses livres sur vos étagères, il serait très content.
Ouais.
Si je vous dis parler l'amour...
Parler l'amour
Vous me répondez Zao de Sagazan.
Exactement.
On l'écoute ?
Vous m'avez pas lu. Hein.
Découvre-toi. Ce simple dessin. tu descends. Quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour. Je veux parler d'amour, parler. Avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Pour remettre le César du meilleur son, je vous demande d'accueillir ma coach de sport, Annick Javelot. Let's get physical, physical, I wanna get physical. Oh putain, ça me fait plaisir de te voir. Ça y est, t'as enfin réussi.
Quoi?
Hein, t'as enfin réussi là.
Mais bah, évidemment que j'ai réussi. Enfin, ça fait quelques années déjà quand même.
Non, à rentrer dans ta robe, on a réussi à fermer le zip. Bon, ma championne, putain.
Oh, allez, passons, Annick.
Annick Javelot, c'était vous, Laura Felpin, au César. En 2020, avec Florence Foresti en maîtresse de cérémonie, vous jouiez sa coach physique. Mmh. Souvenir?
Incroyable. Bah, Florence m'avait demandé d'être là. Je l'avais rencontrée en amont parce qu'on avait écrit le sketch ensemble. Et je sais pas, c'était un moment incroyable parce que j'ai joué avec mon idole. Donc moi, j'avais même pas besoin de. Enfin, je l'aurais fait dans une kermesse. C'était pareil pour moi, quoi. J'étais avec elle, quoi. C'était concrètement le truc de. Donc là, je suis en train de faire un sketch avec Foresti. Genre, je sortais de moi-même en disant, oui, bon, je suis en train de faire ça. C'est quand même un peu fou, quoi. Et je trouve pas ça malsain parce qu'au contraire, moi, des fois, là, ça me l'a fait. J'ai tourné un film avec Cassel. Je me dis, ouais, bon, là, je suis quand même en train de boire un café.
Vincent Cassel dans Banger.
Ça me le rendait pas plus star qu'autre. Enfin, je sais pas, plus impressionné par l'être humain, mais c'est quand même des parcours de comédienne. Donc,
c'est bien de se dire que c'est formidable d'être avec eux.
Bah ouais, c'est des grands acteurs, c'est des grands comédiens. J'ai tout à apprendre d'eux, quoi. Enfin, c'est génial.
En plus, vous êtes bien entendu avec Cassel, il rit à vos blagues.
Il rit à mes blagues, il est bon public, hein, Vincent. Il en fait beaucoup aussi, des bonnes et des moins bonnes, s'il m'entend. Mais
ouais. Je vous demanderai pas de détails.
Non.
On pourrait écouter un sketch de Foresti.
Allez.
Moi, j'adorerais être homosexuel, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui, franchement, je devrais, même moi. Ben, je devrais, puisque j'adore les femmes. Le problème, c'est que j'aime pas les vulves. C'est pas net, quoi. Je sais pas qui est le styliste qui a dessiné ça. Mais il était complètement cinglé, le mec. Il a dit, moi, je veux quelque chose avec beaucoup de tissu. Hein, beaucoup de tissu. J'aime. Oui. Que se fait les... Comment si dice? Que se fait les drapés. J'aime les drapés, les plis, les fronces, comment si dice? Les volantes, brava, les volants. Les volants, la corolle, j'aime. Souple, les volants, souple. Que bouge avec la personne, oui. J'aime des volants qui se superposent, petit volant, grand volant. Non, pas symétrique, non mi piace, non.
Ben, on rit toujours quand on écoute cet extrait parce que ça commence un peu fort et puis après elle dessine à tous les sens du terme et elle poursuit sur l'idée du volant avec un accent. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez Florence Foresti, Laura Felpin ?
Elle est très très généreuse et très très marrante quoi. Enfin, c'est vraiment un mardi avec elle, c'est juste du jeu, donc c'est génial. J'ai la chance de la connaître comme ça, mais dans ce spectacle-là particulièrement, il y avait quelque chose d'assez grandiose parce qu'elle parlait de sa vision du féminisme et à travers le regard d'une femme de son âge. C'est pas une prise de parole très courante dans le stand-up chez les femmes. De toute façon, il y en a pas beaucoup de sa trempe. Et ça posait plein de questions parce que c'était un peu opposé au néo-féminisme qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on peut dire aujourd'hui de plutôt notre génération à nous. Comme c'est très marrant, il y a un endroit où ça a pas clivé parce que ok, on n'était pas forcément d'accord avec le propos, et je trouvais ça super chouette que, en fait, il y ait quand même des gens qui se disent « Bah ouais, mais c'est quand même super drôle, et du coup, c'est aussi une parole qu'on ne peut pas nier, et c'est un de ses meilleurs. » Enfin, elle en a fait beaucoup, mais moi, j'ai adoré ce spectacle.
Vous parliez tout à l'heure de votre psychologue ou psychanalyste, je ne sais pas.
Ma psychologue. Elle est psychologue. Je vous embrasse.
Elle est psychologue. Foresti dit qu'elle a fait 13 ans sur un divan, elle a passé 13 ans sur un divan, qu'elle y allait parfois 3 fois par semaine, elle adorait faire une psychanalyse, et elle a arrêté après 13 ans.
Ouais.
Mais c'est nécessaire ? Alors c'est peut-être idiot comme question, mais quand on est comique, d'aller s'allonger, d'avoir un recul peut-être et de parler avec quelqu'un ?
Oh, moi je pense quand on est vivant.
C'est tout simplement quand on est vivant.
Je ne sais pas si c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi ça l'est, ça c'est sûr. Mais moi ça fait longtemps, et puis en fait à un moment donné j'étais arrivée à régler quelques petits trucs sur les angoisses de mort justement qui s'étaient ancrées dans la vie, et puis c'était vraiment des outils pour moi me calmer un peu quand j'avais des crises d'angoisse. Au moment où on a voulu s'arrêter parce qu'on trouvait que je gérais plutôt bien, je suis rentrée à la télé. Et on s'est dit, bon, à mon avis, c'est notre aventure, ça, on va peut-être pas se lâcher. Depuis, malheureusement, j'ai bien taffé. Et du coup, je vous le cache pas, c'est vraiment une séance par semaine. Là.
Vous avez invité Albert Moukébert, psychologue clinicien né au Liban, docteur en neurosciences. C'est peut-être pas mal de préciser le terme neurosciences. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors moi, j'ai fait une thèse en neurosciences cognitives, parce qu'il y a différentes branches. Ah, c'est l'étude fonctionnelle du cerveau, c'est-à-dire pas les neurones, mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on a un souvenir? Comment est-ce qu'on ressent une émotion? Comment est-ce qu'on forme une opinion? Comment est-ce qu'on change d'avis? Comment est-ce qu'on collabore? Comment est-ce qu'on se comprend alors que chacun vit un peu dans son monde?
Laura Felpin, vous avez lu donc des bouquins d'Albert Moukébert, c'est ça ?
Oui, alors là, je suis en train de finir Neuromania. Mais alors attention, parce que moi, Albert me permet partout de dire des trucs genre que je ne peux pas expliquer. Genre, c'est une vision très localiste du cerveau, en fait. Après, je ne peux pas beaucoup expliquer. Ce que je comprends aussi, parce que c'est quand même, si je peux employer le terme de vulgarisation, mais ce n'est pas vraiment parce que, en fait, c'est juste très bien expliqué. Et de ce que je lis, plus précisément sur le cerveau, il y a un truc de, voilà, ça nous arrange d'avoir une vision presque un peu, de dire on a le corps très préfrontal, on utilise 10% de notre cerveau et tout, et Albert s'amuse, enfin en tout cas s'amuse, je sais pas, mais en tout cas, prend très au sérieux l'histoire de qu'on soit bien renseigné sur non, c'est pas si facile, et en fait, tout communique un peu, quoi. Et ça vient pas que du nerf ou d'un endroit dans le cerveau, mais ce qui me fascine encore plus dans son travail, c'est la notion de, plus particulièrement du temps, et de rentabilité du temps. Il a des discours, enfin moi je l'écoutais absolument partout, je suis un peu obsessionnelle, mais sur cette histoire du bonheur et de moi qui suis, voilà, justement une grande angoissée de la mort, j'ai pour autant pas du tout envie de vivre à chaque fois pleinement tout le temps en me disant il faut que ce soit hyper efficace, que là ce soit rentable, que voilà. Et le bonheur est devenu un peu ça dans cette société-là.
Une obligation.
Et Albert, il dit un peu calmez-vous, quoi.
Oui, c'est vrai que vous nous incitez à nous calmer.
Moi, c'est le bonheur est surcoté.
Oui, le bonheur est surcoté.
Le bonheur est surcoté, exact.
Et vous ne voulez pas qu'on soit des êtres parfaits, parce que parfois les réseaux sociaux nous poussent à ça, être le plus beau, le plus musclé, le plus mince.
Je veux pas qu'on soit les plus parfaits, je veux même pas qu'on essaye.
Ouais, c'est ça.
Je pense que essayer, c'est déjà se tromper de route.
Alors comment vous essayez de nous convaincre par l'écriture ?
Déjà en essayant d'expliquer pourquoi on vaut mieux que ces récits. C'est-à-dire, on est dans une culture qui met beaucoup l'accent sur la personne. Par exemple, on parle de développement personnel, de développement de l'individu par l'individu. On va à la salle de sport, on va chez le psy, ce qui est une bonne chose, je suis psy, mais parfois on va chez le psy juste parce qu'on veut aller chez le psy. On va faire attention à son alimentation pour qu'on soit tout le temps très sain, etc. Et c'est une question de dosage. C'est-à-dire, évidemment, c'est bien de manger sain, c'est bien de ne pas être sédentaire, c'est bien de s'occuper de sa santé mentale. Mais quand ça devient une sorte d'injonction, de pression, ben ça devient délétère, et j'essaie d'expliquer comment ça devient délétère. Par exemple, sur l'alimentation, j'imagine que tout le monde connaît la boulimie et l'anorexie. On a aujourd'hui, on est face à une sorte de nouveau trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie.
C'est quoi, hein?
Ortho, c'est droit, de manger droit, de tout le temps se nourrir hyper sainement, de compter ses calories, de pas manger un truc qui est un peu transformé, etc. Alors qu'on est un organisme tellement fascinant, tellement plus robuste, tellement plus malléable, adaptable, que ce truc, que tout soit sous contrôle. Le problème de cette époque, c'est que tout est cooptable. C'est-à-dire, si je viens et je vous dis le droit à l'erreur a déjà été dévoyé et a déjà été coopté. Si je dis le lâcher prise a déjà été pris. Si je dis rester dans le moment présent a déjà été... Tout a été marketé. On parle de commodification des choses, et même le temps, je m'intéresse beaucoup au temps, le temps a été commodifié. Cette notion que le temps, c'est de l'argent, qu'il ne faut pas perdre son temps, c'est quelque chose de très récent dans les sociétés humaines. Vous n'allez jamais trouver un texte de ne serait-ce que 1700, 1600 d'un auteur qui parle de la perte de temps. On a toujours eu des angoisses sur le temps qui court, sur le temps qui file, mais dans notre vie quotidienne, c'est quasiment inexistant de se dire « Ah bah, à 16h, je dois être là, puis à 17h, je dois être ici, puis je peux peut-être caler un créneau entre 17h et 18h. » Et on a créé aussi des sociétés où on est tous relativement isolés, si on doit se voir... J'imagine, quand je grandissais, quand vous étiez en train de grandir, etc., on se voyait sans vraiment planifier. Aujourd'hui, il y a une sorte d'organisation, de...
Surtout à Paris, je trouve.
Oui, surtout à Paris, bien sûr.
Oui, c'est rare qu'on vienne sonner chez nous.
Mais moi, c'est pour ça que je traînais... Enfin, souvent, quand je vois des gens plus vieux, c'est bizarre, mais je pense que c'est vraiment un truc d'époque.
Ils ont quel âge, les vieux?
Enfin, non, mais ils ne sont pas vieux. Je ne veux pas vous vexer. Non, commencez pas avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas de ma génération. Moi, ma mère, elle faisait un truc hyper... elle va de quartier en quartier et elle sonne. Enfin, elle dit, voilà, je suis là et tout. Et moi, je fais vachement ça. Par exemple, avec Forest, quand je suis dans le quartier, je dis, je suis là, est-ce que tu as le temps pour un café? Elle peut être dispo ou pas, mais... Et je fais beaucoup ça, parce que, en fait, sinon, moi, c'est horrible, quoi. J'arrive pas à planifier, parce qu'en plus, je suis nulle pour ça, donc je passe ma vie à annuler des gens, parce qu'en fait, j'ai pas envie. Alors que là, je me dis, bon, bah voilà, je sais que ce soir, je vais faire un truc dans tel quartier, je vais passer là, on va voir, quoi.
Mais vous avez beaucoup d'injonctions en ce moment, là, par exemple. Ouais. Vous n'arrêtez pas de tourner, donc vous avez un agenda sur plusieurs semaines hyper précis.
Oui, mais moi, je pense qu'à un moment, je vais être moins à la mode, parce qu'en fait, Et je suis entourée de gens et qui sont là derrière cette vitre, qui constituent mon équipe et tout, et qui m'aident à fonctionner, parce que moi, j'arrête pas de dire, c'est trop, ça va trop vite pour moi. Je vois trop de gens. Puis c'est ça aussi qui est très étrange. Quand on fait ces métiers-là, on est d'un coup ultra sollicité. Oui, alors on va manger avec machin, faire un truc avec tel producteur, tel réalisateur, tel machin. Mais en fait, il faut faire attention à ça, parce que la vie, elle est genre pas là, quoi. Enfin, c'est vraiment... je me souhaite un peu, franchement, de me dire...
Vous savez à qui vous me faites penser, Laura Felpin?
Non, dites-moi.
À Dalida.
Ah, bah ça c'est un grand compliment.
Hein. Ah oui, je sais que vous êtes...
Enfin, je me souhaite pas la même fin quand même, Vincent.
Non. On va l'écouter, Dalida. Ah, allez. Une autre de vos idoles, après Florence Foresti, ou avant, je ne sais pas, mais écoutons-la.
Chaque être a le livre de sa vie. Et un jour, il faut l'ouvrir, il faut lire dedans. Et moi, je pense que le voyage le plus merveilleux, ce n'est pas celui que l'homme fait en allant à la Lune, mais c'est le voyage intérieur. C'est le plus fantastique et le plus... Il est très escarpé aussi, il est très pénible. Mais je crois qu'il est nécessaire. Il est nécessaire à l'être de se connaître. Parce que si on ne connaît pas, on ne connaît pas les autres. Et si on ne s'aime pas, si on ne commence pas par s'accepter soi-même, on ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas les aimer. Et je me suis rendu compte en m'analysant, en essayant de me connaître, de m'accepter tel que je suis. C'est-à-dire que je ne voulais pas me regarder tel que j'étais.
Qu'est-ce que vous vous reprochez?
Eh bien, je me reprochais de traverser la vie seulement en chantant, sans regarder ni à droite ni à gauche. Et je sais maintenant pourquoi je chante. Je sais ce que c'est que le public pour moi, je sais ce que sont les chansons, je sais quand je rentre sur la scène ce qui se passe en moi. Et je sais que le vrai mariage, en fait, je ne suis pas mariée, et je l'ai fait avec la chanson. Le public, c'est mon mari, finalement.
Laura Felpin, dis un petit peu ce que vous venez de dire, d'une autre manière. Mm. C'est-à-dire la nécessité de prendre du temps pour soi, qu'on soit une star de la chanson, ou du stand-up, ou une comique, une comédienne, et le don de soi au public. L'équilibre est très difficile.
C'est pas tant prendre du temps pour soi, c'est vrai que c'est important et tout, mais c'est justement, je pense, l'inverse de ce qu'on se dit du temps pour soi aujourd'hui. Je pense que c'est ouvrir aux autres. Et ça, je pense que le jour où je vais un peu me décentrer sur des trucs, ça va me calmer sur plein d'aspects.
Oui.
Donc, Il faut aller absolument, je pense, faire des actions collectives, des trucs qui nous sortent un peu de nous-mêmes.
Parce que là, vous êtes beaucoup...
Et au-delà de ça, même avant d'aller faire des trucs collectifs et tout, de sortir, pour moi par exemple, et de braver ce truc de... J'ai perdu mon anonymat, mais je m'en fous, je vais quand même aller parler à des gens et je peux devenir amie avec des nouvelles personnes.
Qu'est-ce que vous voudriez faire pour les autres, Laura Felpin ?
Là, je suis inscrite dans une association récemment, j'ai pas encore pu rencontrer l'enfant, mais qui s'appelle Parrain par mille, et qui est un système de parrainage, en fait, où des enfants qui sont ou en foyer, ou placés, ou dans des familles en difficulté, en fait, on s'engage à parrainer cet enfant, mais pas le parrainer financièrement, mais en faisant un partage de temps, en fait, c'est-à-dire, voilà, de temps en temps, je viens le chercher, on va faire une activité, peu importe quoi, même juste traîner ensemble. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup... élevée à la culture, enfin qui m'ont amené tout ça, et je me disais, bah franchement, en vrai, je suis un peu le produit de ça, donc je serais contente de pouvoir l'apporter à un enfant qui l'a pas forcément dans sa famille, ou même qui l'a déjà, mais voilà, de juste faire des rencontres, quoi.
Albert Moukébert, vous avez l'air d'acquiescer.
J'acquiesce, et je pense que c'est pas une question, souvent on va confondre ce qu'on fait et l'attitude qu'on a quand on le fait, c'est-à-dire on peut avoir 100 000 rendez-vous dans une journée, mais l'intérieur qui soit calme. Et on peut avoir un calendrier relativement vide et se sentir débordé. C'est une question aussi d'attitude. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'est-ce que je suis en train de faire. Je peux être en train d'aller d'interview en interview à faire, je sais pas, une tournée de promotion pour un film ou pour un livre, mais de dedans, je me sens pas dans une course effrénée. Je peux aller me poser avec des potes et pas être là. Mmh. Et je peux être en train de rencontrer une nouvelle personne et être complètement présent. Je pense que c'est une question vraiment de ressenti subjectif de la vie qui est aujourd'hui malmenée, plus que ce qu'on est en train de faire juste avec nos corps. C'est... Je sais pas, on invite des gens chez nous à la maison et on se met une pression comme s'ils sont en train de venir à un restaurant étoilé Michelin et qu'ils sont en train de lâcher 500 balles les pâtes à la sauce tomate que je suis en train de faire. Et on oublie de juste se foutre la paix un peu. Et... Ouais.
Vous recevez vos vieux amis chez vous, Laura Felpin ?
Mes vieux amis ? Mais vous êtes invité la semaine prochaine, Vincent.
On va vous écouter chanter, vous allez moins faire la maline.
Ah bon ?
Non, vous chantez très bien.
Ah non,
je vous l'avais dit d'ailleurs dans la comédie musicale, Jolie Jolie.
Ah, Jolie Jolie. Oula, c'est pas tout à fait ma voix, ça. Mais
non, vous disiez que vous aviez dû la monter.
Oui, on m'a forcé à chanter comme une princesse Disney, là. Alex Baupin m'a pas lâchée, ouais. Mais je suis très contente du résultat, mais quand je m'écoute, je ne me reconnais pas du tout.
Dites-nous ce que vous jouez dans cette...
Je joue Mirette. J'adore ce personnage. C'est un petit personnage qui est foutraque un peu et qui fait un peu n'importe quoi et en même temps plein de trucs en même temps.
Elle commence femme de ménage, elle finit assistante d'une star.
Ouais, voilà, c'est exactement une trajectoire, ça ne veut rien dire du tout. Et en même temps, c'est pas la belle gosse du film et puis elle finit quand même par serrer tout le monde. Donc je trouve que c'est plutôt...
Ah oui, je crois qu'elle a au moins quatre amoureux dedans.
Ouais, ouais, elle fait son business parce qu'elle est quand même marrante et tout. Et c'était super à faire. C'était avec une belle bande de copains et c'était surtout... c'était génial comme film.
Il y a une chanson par Laura Felpin qui est Je rate tout.
Le grand atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Je rate tout. Bonne à rien du tout. Juste bonne à être bonne et du coup. Je rate tout. J'ai beau essayer, je suis trop conne. Je rate tout du premier coup. L'amour raté, la gloire ratée. Toujours raté, raté de peu mais raté. Le train raté pour le succès. Il est passé à ça mais il est passé. Je rate tout. C'est une maladie, un stigmate. Je rate tout, c'est ainsi. Je rate tout. Comme une abrutie, une automate. Je rate tout, c'est une manie. L'amour raté, la gloire ratée, toujours raté, raté de peu mais raté. Le train raté pour le succès, il est passé à ça mais il est passé. Je rate tout, même toi qui m'as aimé, quelle ingrate, même toi je t'ai raté. Je rate tout. Je dois bien admettre que ça t'épate, j'ai raté même tes baisers. L'amour raté, la gloire ratée, toujours raté, raté de peu mais raté. Le train raté pour le succès, il est passé à ça mais il est passé. Assez raté, rate tout.
Oh, que c'est agréable de s'écouter chanter, Laurent Felp.
Super.
C'est vrai que votre mère était clown ?
Oui, oui. Elle l'est encore un peu quelque part, mais elle était intermittente du spectacle, mais clown, en effet. Ouais.
C'était son métier principal ?
Oui, à un moment, c'est devenu son métier principal. Elle a rencontré mon beau-père, qui était aussi clown, et ils ont eu un duo de clown pendant très longtemps, ouais.
Mais ça a dû être merveilleux pour la petite fille que vous étiez ?
Pas du tout. Alors, ma mère est une femme absolument... Enfin, j'aime ma mère infiniment, je la trouve géniale, même en tant que pas mère. Genre, je trouve que c'est une personne géniale. Et mon père est très marrant, et ma mère, elle a l'air moins marrante comme ça, mais en fait, elle est très clownesque, quoi. Donc, c'est vraiment quand elle rentre dans son habit de clown. Et quand j'avais 15-16 ans, j'aimais pas beaucoup la voir faire du clown dans les rues de Mulhouse déguisée en sapin de Noël, quoi.
Vous aviez un peu honte ?
J'avais pas honte, mais si, je devais avoir honte comme une ado, quoi. Mais... Genre, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te donnes un spectacle ?
Mais vous en avez du clown, voilà. Vous, Laura Felpin ?
Oui, oui, un peu, hein, je crois. Hein.
On va écouter une clown, c'était Annie Fratellini.
Oh !
Mais qui est le plus difficile dans le cirque, c'est le clown ?
Oh oui.
Le plus complet, il faut faire quoi d'abord ?
Je pense qu'il faut tout faire et puis il faut avoir l'âge aussi. Il faut avoir un peu souffert, je crois, pour être un bon clown. Il faut avoir vécu.
Vous avez un petit garçon qui est arrivé un jour avec un petit nez rouge et vous lui avez dit quoi ?
Ben, je lui ai dit qu'il fallait d'abord apprendre autre chose que de se mettre tout de suite le nez de clown. C'est quand même une
récompense. Quoi dans l'ordre ?
Dans l'ordre, je pense que c'est la danse, la base de tout, l'acrobatie, et puis la musique.
Elle en parle très gravement, d'ailleurs, du clown. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient d'écouter ?
Je n'ai pas réfléchi à cette question du clown.
Est-ce qu'il faut avoir souffert ?
Je crois que c'est par essence, on souffre, mais que ce n'est pas souhaitable, quoi. Moi, je me souhaite quand même pas de souffrir tout le temps, quoi, pour avoir besoin de créer. En tout cas, j'espère que ce sera jamais mon essence, parce que sinon, ça, alors là, je suis vraiment dans la merde.
Comment ça naît le rire chez vous ? Est-ce que c'est d'abord de l'écriture ? Est-ce que c'est d'abord de l'imitation ? Je sais que quand vous étiez petite fille, vous imitiez déjà pas mal les gens autour de vous, à l'école ou ailleurs. Est-ce que vous avez besoin de vous mettre avec votre co-auteur, qui est un ami à vous, dites-nous son nom,
Cédric Salin,
à l'écriture ensemble pour démarrer un sketch ? Racontez-nous la fabrique de l'humour de Laura Felpin, si on peut mettre
J'ai
des mots
aucune
là-dessus.
Aucune méthodologie, moi, mon pauvre. Mais aucune. C'est à tel point que vraiment... Je sais pas, je pense qu'un jour je verrai écrire un truc, mais je sais pas comment, quoi. C'est-à-dire que là, ça m'était venu parce que je savais, on insistait beaucoup pour écrire le spectacle, et je me disais, je sais que ça va venir un jour, mais je peux pas vous dire quand. Puis quand à la télé, à un moment donné, on avait fait un peu le tour, j'ai dit, ah ben c'est maintenant, je sais que c'est maintenant qu'on va l'écrire. On s'est enfermé dans une maison avec Cédric et on a joué, quoi. Enfin, je sais pas. Parce qu'au début, on se levait le matin, on se mettait devant la table à 10h et on faisait, je sais pas. Puis finalement, c'est en allant genre chercher du bois pour faire du feu ou en se baladant dehors, on pensait que la maison était hantée, donc on faisait des blagues. Donc en fait, c'est en jouant qu'on a écrit. Mais là, aujourd'hui, du coup, comme la vie est devenue un peu plus sérieuse, que j'ai genre un prêt immobilier, que j'ai genre des trucs... Tu sais, j'ai des échéances d'un coup, je deviens un peu genre encombrée de ça. C'est un peu plus dur pour moi d'écrire ou de créer, quoi. Je sais pas comment ça va revenir. Ça va revenir, hein. Mais donc, là, j'ai pas de fabrique d'humour. Après, je suis franchement bonne cliente et je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui me font rire. J'adore les vieux, quoi, pardon, mais je parle pas des vieux. Non, mais j'adore.
Un truc avec les vieux.
En fait, les vrais vieux, qui, genre mes grands-parents, là, ont 90 ans. Moi, l'espèce de zinzinerie d'en avoir plus rien à foutre me fascine. C'est-à-dire, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de conversation, ils se côtoient. Mais genre, c'est une autre existence. Je suis un peu obsédée par ça, non pas à cause de l'histoire de la mort, mais parce que je me dis aussi... les vieux arrêtent un moment d'exister dans la société et ça m'inquiète beaucoup parce que je me dis c'est quand même fou quoi de me dire mais mon grand-père il est né en 34 en fait. Et donc ça par exemple ça me fait mourir de rire. Mon grand-père qui parle avec son pote, mon grand-père sourd qui parle avec son pote qui a fait un AVC, donc personne ne se comprend, personne ne se parle et pourtant ils restent 2 heures ensemble.
Et ça peut devenir un sketch ?
Oui, 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 oui. Là je me suis dit que les vieux, la grande vieillesse ça pouvait devenir un sketch, mais c'est aussi très dur, hein, par plein d'aspects. Mais j'y trouve quand même des trucs super marrants. Il y a un truc de lâcher prise qui me fascine, quoi. Vraiment.
Ça vous intéresse, Albert Moukébert, les comiques ? Ça vous semble quelque chose d'étrange ?
Oui, non, non.
Comment vous les observez ?
Ça m'intéresse énormément.
Je rappelle que vous êtes psychologue.
Après, je suis pas en train d'analyser tout le monde.
Ouais.
Non, ça m'intéresse tout énormément. Même quand je fais des conférences, c'est hyper important pour moi que les gens rigolent.
Et puis tu fais des chroniques sur Nova marrantes, non?
Je fais parfois des chroniques sur Nova qui peuvent être marrantes. Mais
tu connais
parfois,
l'exercice, quoi.
Oui, parfois même en conférence, à la fin, on vient et on me dit, on venait à une conférence de neurosciences, on ne s'attendait pas à rire autant. Je pense que le rire est un vecteur, pas juste de divertissement. Le rire est un vecteur d'apprentissage, de pédagogie, de lien social. Et aussi, ça me fait marrer. J'aime bien rigoler.
Mais est-ce que vous êtes un peu fasciné? Moi, je le suis en tout cas, c'est sans doute pour ça que je fais ce métier, par les artistes et notamment les comédiens, par la mémoire du comédien. Alors ça les fait rire et ça les agace, les comédiens, quand on leur dit « Comment vous faites pour apprendre tout ce texte ?» Mais c'est vrai que le cerveau des comédiens doit être intéressant à analyser.
Absolument, je suis très fasciné, surtout que moi, j'ai un peu fait du théâtre, etc. Et je suis incapable de retenir quoi que ce soit. Même quand je fais mes chroniques, souvent on me charrie parce que j'écris pas mes chroniques, parce que même les lire, j'y arrive pas. Et du coup, je suis vraiment fasciné par le respect du texte par les comédiens. C'est-à-dire, moi, on m'embauche sur un film, il faut que je dise quelque chose, je vais garder le sens, mais je vais le dire avec mes mots, je suis vraiment incapable.
Il vous faudrait une oreillette.
Ou une oreillette. Et même si je dois écouter et après écouter et puis le ressortir, j'y arrive pas. Si je devais être comédien, je pourrais que faire de l'impro. Ça, c'est sûr, c'est impossible. Mais aussi, je trouve fascinant, d'un point de vue plus professionnel de mon travail, la capacité qu'ont les comédiens à invoquer des émotions. C'est moins la mémoire, et plus ce qu'on appelle en philosophie la phénoménologie, c'est-à-dire de l'expérience subjective de vie, de pouvoir sur commande invoquer un état entier de l'organisme. On m'a proposé quelquefois de faire des petits rôles ou des choses comme ça, et je leur ai dit, moi, je peux juste jouer moi. Pas moi, Albert, mais genre mon tempérament. Donc on me donne un personnage un peu flemmard, un peu désabusé, etc. Ça marche, mais on me dit, maintenant, tu vas avoir une colère très forte. Je ne l'ai pas dans mon répertoire. Dans mon répertoire.
En parlant de colère très forte, on va écouter un petit extrait de Bref 2. Parce que vous êtes la colocataire de...
De Kian Kojandi.
Et vous avez un sacré caractère.
Quand mes potes ont appris que j'allais vivre avec Billy, ils m'ont tous dit
bon courage.
Bon courage.
Ah bon courage, hein.
Parce que c'est la meuf la plus relou que j'ai jamais connue. Du coup, je marchais sur des œufs.
Ça va ?
Jusqu'au jour où.
Quoi ?
Tu laisses couler l'eau pendant que tu te brosses les dents ?
Ouais.
Me permets, hein, mais moi je faisais pareil. Mais quand il réfléchit bien, c'est complètement con.
Waouh, mec, c'est mort là. Tu l'as traité de conne et tu lui expliques qu'elle a tort. Tu vas mourir. Regarde.
T'as raison, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est complètement con. Merci.
Elle était beaucoup plus cool que ce que je craignais. Elle faisait des petits déj, des blagues, et puis un matin.
Il est à toi le fromage dans le frigo?
Ouais, c'est un fromage de chèvre.
De la merde, ton fromage de merde, avec ses particules de merde qui contaminent tout le frigo. Maintenant, mes bananes, elles sentent les vieux pieds pourris et dégueulasses. T'aurais pas pu penser avant? Non, moi je suis maniaque. Mais t'es maniaque de ton cul, ouais. Il y a plein de cheveux dans la douche, là.
Mais j'ai pas
avec tes baskets d'adolescents de merde retardés à la con, là, qui traînent dans le salon. J'ai failli me les prendre hier dans les pieds, j'ai failli m'éclater la gueule contre ton mur de connard, avec tes graffitis de connard que t'as toujours pas enlevé. Et après, tu bois mon café, et moi je dois boire ton café de tolard qui pue la merde et qui baise un vieux trou dans un matelas. Sa petite bite de merde qui sent le fromage de chèvre comme ton fromage de chèvre, comme ta gueule qui pue la merde.
Je ne collouerai jamais avec vous.
Ça, c'est fascinant.
Et c'est fascinant parce qu'elle n'arrête pas.
Ouais, non, mais...
On pense qu'il y a une chute, pas du tout, ça se prolonge.
Tout ça, c'est écrit ou ça sort tout seul?
Non, ce qui m'inquiète... Non, alors moi, je ne suis pas une très grande improvisatrice pour le coup. J'avoue que j'ai un problème avec le texte, même dans mon spectacle, vraiment. J'ai fait deux captations du spectacle. Quand on est parti en salle de montage, j'ai vraiment vu que j'avais peu de magie dans ce que je faisais, puisque je lève le bras à droite le mardi, c'est la même chose le vendredi. Et ça, je l'ai appris... par cœur, je ne sais pas pourquoi, parce que je galère quand même à écrire. Pour apprendre, j'ai besoin de l'écrire et de le jouer, donc vraiment, c'est interminable quand je dois apprendre un film. Et là, c'est rentré très vite. Je ne sais pas pourquoi, je devais être très fâchée. Et en effet, c'est sorti comme une sorte de tirade, quoi.
Mais je voulais vous faire écouter cet extrait-là, parce que Kian Kojandi a dit de vous que parmi la troupe, et il y a beaucoup de monde dans cette saison Bref 2, il a dit que vous étiez celle qui avait le plus le sens du rythme, de la rythmique. Et c'est vrai que quand on est drôle, il ne faut pas se planter d'un quart de seconde.
Je ne sais pas, il dit souvent ça, moi je n'arrive pas à savoir ça de moi. En tout cas, j'apprenais mes textes, quoi. Honnêtement, je ne veux pas faire genre, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, dès qu'on apprend bien son texte sur un tournage, les gens font « Waouh, quelle bosseuse !» Et tu fais genre « Non, vraiment, c'est le minimum. » Et je pense que vraiment, juste, il y a plein de gens qui n'apprennent pas leur texte. Donc du coup, j'ai un truc très scolaire. Et c'est pas trop dur pour moi, par exemple, d'aller... tu disais que tu savais pas trop comment on pouvait parfois se remettre dans un état. C'est pas la tirade, celle-là, qu'on me ressorte beaucoup, et pas la plus, celle dont je suis la plus fière, moi, Laura, parce que c'est pas une porte qui est compliquée à emprunter pour moi. C'est-à-dire, genre, je sais désinguer quelqu'un, j'ai genre un père qui est zinzin avec ça. Donc, c'est pas le truc dont je suis le plus fière. En revanche, tous les derniers épisodes où j'ai dû aller récupérer un peu de tendresse et où j'ai dû un peu ouvrir, là, c'était le grand défi pour moi. Mais c'était un super tournage.
Laura Felpin, on va écouter Parcels, le groupe de pop australien Safe and Sound. Vous aimez la photo, mademoiselle Laura Felpin ?
Oui, j'adore.
Vous en collectionnez ?
Oui, alors il n'y a pas longtemps, j'ai une obsession pour la photo, parce que j'ai une voisine qui est décédée très vite, que j'aimais infiniment, et que j'étais en tournage quand elle est décédée. Quand je suis revenue, je me suis dit, bah enfin, c'était ma voisine. Elle était tellement vivante que ça m'était impossible de me dire, donc elle est morte là, ça y est, c'est ciao. En plus, on ne sait pas trop quoi faire quand c'est sa voisine, c'est pas sa mère, c'est pas ses... Il y a un espèce de deuil bizarre à faire, qui est un deuil voilà, de quelqu'un qu'on avait dans sa vie, mais qui n'était pas non plus la plus intime. Et il se trouve que j'ai eu une obsession pour récupérer quelque chose chez elle. Et j'ai jamais osé demander aux gens qui vidaient son appartement de le faire. Ça se faisait pas, j'y arrivais pas. J'ai croisé un type un jour, ça s'est pas fait et tout. Je rentre chez moi, je suis colère. Je me dis putain, j'aurais dû prendre un livre. Je sais que Marie-Georges adorait les livres, adorait plein de choses. Et je voulais me souvenir d'elle et tout. Enfin, je voulais un objet, quoi. Et en allant manger le soir dans mon quartier à Belleville, je vais à la poubelle et j'ouvre la poubelle et je vois... toute la vie de Marie-Georges en photo dans la poubelle. Mmh. Et là, je me dis non. Et en fait, je vois sa mère, son père, je vois son livret de famille. Je vois en fait des visages qui me rappellent Marie-Georges, qui ne sont pas les siens. Et bien sûr, en fait, on fait quoi d'une femme qui n'a pas d'enfant, qui meurt à 75 ans, qui était l'amie de tout le monde. Mais enfin, je veux dire, je ne sais pas si on récupère toutes les photos. Il y a forcément du tri, des choses à faire et tout. Et donc, je me suis dit, je vais les garder. Et je me suis fait une grosse boîte avec plein de photos que je n'ai pas encore regardées. Et depuis, j'ai un peu ce truc de, d'avoir envie de, d'avoir des photos juste de gens. J'aime bien imprimer les visages des gens sans, sans avoir besoin d'expliquer et d'être obsessionnelle sur leur histoire ou leur parcours.
Vous voulez faire un film ? Vous aimeriez réaliser un jour ?
Oui, j'aimerais bien.
Eh bien, ça pourrait être le début d'une histoire.
Ah, why not ?
Ouais.
C'est pas faux, ça, hein ? Vincent.
Voilà, je prendrais 20%.
Ouais.
Je vous emmène au musée Mayol à Paris. Commence une nouvelle expo d'Oano dans laquelle vous retrouverez des images que vous connaissez sans doute, mais aussi beaucoup de photos méconnues. Certaines étaient publiées dans des magazines, d'autres étaient des publicités pour des marques. Vous verrez bien sûr, dans une mise en scène d'ailleurs inédite, le fameux baiser de l'hôtel de ville, mais surtout, dans chaque pièce va surgir l'œil que portait d'Oano sur ses contemporains, la passion des autres qui l'amenait à marcher du bistrot parisien vers la banlieue, des bals mondains au manifestations, la commissaire de l'exposition Instant Donné, qui a travaillé en lien avec l'atelier d'Oano, nous sert de guide, Isabelle Benoît.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Alors venir voir d'Oano au musée Mayol, c'est aller dans énormément de salles, c'est quasiment une rétrospective, Isabelle Benoît.
Effectivement, nous avons la chance donc de présenter au public une véritable rétrospective avec plus de 350 photographies encadrées et qui couvre l'intégralité de la carrière de Robert d'Oano avec des images allant donc de 1934 à 1992.
Là, par exemple, on est dans une salle qui résonne pas mal, mais qu'est-ce qu'on voit ici ?
Alors ici, nous nous trouvons donc dans la section intitulée « Les années Vogue ». Et donc, c'est l'époque où il est employé donc par le magazine. Et là, il va photographier les mondanités, les bals, les grands mariages. Et il va aussi s'intéresser au métier de la mode, à la reprise de la vie culturelle et artistique à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Et il profitera aussi pour amener donc dans ce magazine luxueux de papier glacé un regard plein d'humanité et de bienveillance, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce milieu de la mode et avec lequel il n'était pas forcément toujours très à l'aise.
Je me rapproche un peu des images, Isabelle Benoît. Des comtes, des comtesses, des barons, des baronnes. Alors, l'aristocratie et la bourgeoisie du milieu du XXe.
Voilà, nous sommes donc en 1949. Là, c'est des photographies sur les bals parisiens, mais il ne les photographie pas de manière conventionnelle. Et par exemple, on s'approche ici de cette image donc, qui s'intitule « Ella Maxwell et ses potins ». Et donc, Ella Maxwell, c'était une personne qui faisait un peu le la de la vie mondaine. Et on voit qu'il l'a photographiée en mettant en avant pas forcément les traits les plus sympathiques de cette personne.
Vous m'emmenez où, Isabelle Benoît ? On est toujours dans la très grande exposition d'Oano. Moi, j'aime beaucoup son travail sur la banlieue de Paris.
Alors, le travail sur la banlieue de Paris, on le retrouve dans l'exposition fort bien représentée, avec une opposition très nette entre des photographies en noir et blanc, des années 50, dans lesquelles on voit la vie, où il y a des gens dans les rues, où il y a une forme de tendresse aussi, de bienveillance entre les personnages. Et puis, en opposition, les photographies, cette fois en couleur, de la commande de la Datar, dans lesquelles la couleur a finalement était un choix esthétique pour Robert d'Oano, mais c'est aussi une manière de montrer que ces immenses villes construites, ces immeubles, quelque part la couleur a dévoré l'individu et on est frappé de constater que c'est une série dans laquelle il n'y a plus d'être humain, ce qui pour Robert d'Oano est absolument unique.
C'est-à-dire que là, c'est plus facile pour quelqu'un qui va extraire ce qu'il trouve beau d'endroits où on ne pense que seule la banalité règne. Et c'est bien de révéler qu'il y a là des moments de beauté, de charme, d'exaltation possible, oui.
Là, en face de nous, Isabelle Benoît, il y a quelle banlieue, il y a quelle personne sur ces images et qu'est-ce qu'il nous montre Robert d'Oano ?
Alors ici, nous sommes dans la section gravité. Au pluriel, nous avons souhaité réunir un certain nombre de sujets qu'il a traités, avec lesquels on a l'impression qu'il s'éloigne un peu du réalisme poétique dans lequel il est facilement classé. Et donc, autour de nous, nous avons des photographies dans lesquelles il est souvent plus difficile de trouver une lueur d'espoir, de sauver l'être humain, comme il disait. Et donc on a des habitats terriblement précaires des années 40-50 à Paris.
On vit dans une pauvre roulotte.
Des pauvres roulottes, des petits marchés improvisés, des gens d'une grande pauvreté. Qu'il a su saisir avec délicatesse. Et puis, quelques images donc, qui sont plus récentes, des années 70, et qui nous montrent comment Robert Doisneau photographie aussi des individus, des couples, des familles, chez eux, à l'intérieur, avec une sorte de maladie sociale où on voit cette personne amputée, ou alors ce monsieur désespéré entre les feuilles de maladie pour pouvoir soigner son épouse, ou alors ce couple qui semble attendre la mort dans un certain confort, mais dans une immense tristesse. Et donc ça, c'est une autre vision de Robert Doisneau.
Dans le fond, je fais des autoportraits. Si j'ai beaucoup de pitié, c'est parce que j'ai pitié de moi. Et que je m'aime bien tout compte fait. Et que j'aime bien tous ces gens-là. Et que le petit moment de bonheur qu'ils ont volé dans leur vie, pourquoi ne pas l'immobiliser ?
C'est jusqu'au 12 octobre, Doisneau, instant donné au musée Mayol, rue de Grenelle, dans le 7e à Paris. Et je pense que Laura Felpin sera visiteuse.
À fond.
Hein ?
Ouais.
Ouais ? Vous avez peut-être un conseil culturel à nous donner, Laura Felpin.
Oui, alors, je suis allée voir hier une pièce géniale qui s'appelle 4200 km, qui est en fait la distance entre l'Iran et la France. C'est écrit et mis en scène par une jeune femme qui s'appelle Alia Navidi, et c'est formidable. C'est l'histoire de l'exil politique de ses parents. Voilà, l'histoire traverse des générations, dont celle de la fille, qui est la narratrice principale du récit, et qui trimballe un peu tout cet exil de ses parents, qui pensent toujours rentrer, puis qui rentrent jamais.
En parlant voilà. d'exil, vous aussi, vous êtes un exilé, vous êtes arrivé, Albert Moukébert, en France à 22 ans. Ouais. Est-ce que c'est du Liban que vous avez envie de parler ? Est-ce qu'il y a un conseil, un livre, ou pas du tout, ou autre chose ?
Je n'y avais pas pensé au Liban, ouais. On pourrait parler de Nadia Twaini. Ouais.
La poétesse.
La poétesse.
Que lit Laura.
On en a parlé pendant la pause. Ce que j'avais en tête aussi, je pensais plutôt à un livre d'un chercheur qui s'appelle Anil Seth sur la conscience. Je sais que c'est un sujet qui intéresse. Comment est-ce que notre conscience émerge ? Qui s'appelle « Être soi », que je trouve est un livre assez fascinant et qui montre combien la philo, la science, l'art ont besoin de se côtoyer quand on s'intéresse au fonctionnement des humains.
Merci beaucoup, Albert Moukébert, et de votre venue aussi. Ouais. Neuromania est sorti chez Alary Éditions, le vrai du faux sur votre cerveau. Par exemple, je croyais qu'on avait un cerveau droit un peu créatif, et c'est des conneries.
C'est des conneries.
Alors, lisez, vous comprenez.
Vous avez vu ce qu'on peut dire après en soirée grâce à Albert, hein ?
Vous devez marquer des points.
Je vous raconte même pas.
Vous parliez d'une pièce de théâtre, vous n'avez pas envie de jouer dans une pièce ?
Mais si, mais laissez-moi tranquille. Maintenant, je veux dormir. Oui. Je veux juste redormir.
Combien de mois vous allez vous reposer ?
Je sais pas, j'ai quand même un film prévu en juin-juillet. Puis après, je crois que ça va être la grande aventure du rien, là.
Ouais, vous irez en vacances avec des vieux.
Oui, je vais tout le temps en vacances avec des vieux. Il faut que j'arrête de faire ça. Putain.
Vous êtes au cinéma dans L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter, sur Netflix dans Banger avec votre ami Vincent Cassel. De quoi d'autre ? Bref 2 sur Disney+.
Je fais toutes les plateformes. Hein.
Oui, vous êtes partout. Ouais. Et bientôt sur scène avec un nouveau spectacle, mais vous reviendrez en parler, comme on dit.
Oui.
Merci, Laura Felpin.
Merci, Vincent.
David Le Prince a réalisé cette émission. Louise Tempéro, Virginie Rouzic, Betty Algray m'ont aidé à la préparer. Valentine Chédebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Julien Chabassu. Je vous retrouve sur Instagram et Blue Sky, sur la page Facebook du Grand Atelier. Samedi sur Inter à 17h, c'est la balade de Barbara Carlotti. Et dimanche, même heure, le Grand Atelier de Christine Angot.